Chapitre 3 Canton pendant la nuit. Il est presque inutile d'affirmer que, malgré la démonstration de bravoure à laquelle il s'était livré, l'intrépide Ming maudit 20 fois le projet de Fohop pendant les 20 minutes qui mirent ses porteurs à le reconduire. Personne ne savait mieux que lui, par ouï dire bien entendu, que certains quartiers de Canton étaient fort dangereux pendant la nuit. Il lui était arrivé souvent, dans les affaires qu'il avait jugées, d'apprendre de terribles choses sur les malfaiteurs qui peuplaient les faubourgs, et sa mémoire les lui rappelait avec une ténacité fâcheuse, juste au moment même où il venait de s'engager à visiter ces bouges, que la police n'osait fouiller et qu'à de rares intervalles, et ainsi termina-t-il assez mal sa journée. Le soir, néanmoins, après un bon repas, généreusement arrosé des vins de France, il retrouva une partie de sa fermeté d'emprunt, et lorsque, vers 10 heures, Fohop vint le chercher, il était prêt, déguisé en coureur de carrefour. Il paraissait même disposé à faire assez bonne figure. « Mes ordres ont été si bien exécutés, lui dit le préfet, que si vous n'étiez pas avec moi, vous ne pourriez certainement retourner cette nuit à Honan. La ville est fermée et barricadée, à croire que les Taiping sont à portée de fusil. Allez, partons !»« Mais partons !» répéta le magistrat, comme s'il entonnait son chant de guerre. Il se dirigea vers la porte de sortie. Mais, arrivé sur le seuil de sa maison, et n'apercevant personne dans la rue, il se retourna vivement vers Fohop pour lui dire « Est-ce que vous êtes seul ?»« Oui, absolument seul. Puisque nous n'avons rien à faire en ville, j'ai laissé mes agents à la porte Singa et avec ordre de m'attendre. Nous allons les y rejoindre. » Ming contint la joie que lui causait cette nouvelle. Du reste, mes hommes sont tout simplement 2. Ah bah, oui, mais l'un de ceux-là est un auxiliaire précieux. C'est le fils d'un pauvre diable, Sun Po, que vous avez condamné la semaine dernière à 3 mois de Kang. Je lui ai promis d'obtenir la grâce de son père s'il nous pilotait utilement. Il a accepté ? Avec reconnaissance. Et comme je lui ai promis également de ne pas me souvenir de ses relations avec le vilain monde que nous voulons visiter, il va nous mener d'abord à la cour du roi des mendiants, puis dans certains lieux où il se pourrait bien que votre assassin se fût réfugié. Le roi des mendiants ? Sans doute, mais ne savez-vous pas que ces gens-là font une association régulière dont le sous-préfet lui-même nomme le souverain ? Oh, j'en avais bien entendu parler, mais je n'y croyais qu'à moitié. Mais vous allez les voir chez eux. Tout en causant ainsi, après s'être fait ouvrir 10 barrières, les 2 mandarins atteignirent la porte de Tsingai. Fohop se fit reconnaître par l'officier qui commandait le poste, et ils franchirent le rempart. Les 2 hommes auxquels le préfet avait donné rendez-vous étaient couchés près du pont à l'abri de grandes jarres qu'un marchand de faïence avait déposées sur la berge. Le collègue de Sun Po était un sous-officier de police en qui on pouvait avoir toute confiance. Il se nommait Amwa. Trapu et vigoureux, il avait le type des Chinois du Sud. En entendant la porte s'ouvrir, il s'était levé, ainsi que son compagnon, et il attendait les ordres de son chef. « En route !» lui dit ce dernier. « Chez Sang !» L'agent s'inclina et, faisant signe à Sun Po, prit les devants. Le petit groupe se dirigea vers le pont de l'île de Honan, et après l'avoir traversé, il s'engouffra dans le dédale des ruelles fangeuses qui occupent tout l'espace compris entre le rivage et le temple de Bouddha. Malgré leur avancée, le quartier était loin d'être désert et calme. À chaque pas, au contraire, Fop et Ming croisaient des promeneurs, et de chacune des habitations, pour ainsi dire, s'échappaient des bruits multiples qui prouvaient assez combien la population chinoise aime à faire de la nuit le jour. « Si nous nous arrêtions ici un instant, » proposa tout à coup le préfet. Ils étaient devant une maison d'où sortaient et où entraient des individus affairés, les uns gais et expansifs, les autres sombres et muets. « Soit, » répondit le magistrat, « quel est ce bouge ?» Le fait est que l'endroit avait le plus sinistre aspect. Sa façade, à peine récrépie, était lézardée çà et là. Il n'existait aucun jour sur l'extérieur, et on apercevait du dehors un long couloir, éclairé par deux lanternes fumeuses, qui devait conduire en fort mauvais lieu. « Mais ce bouge, comme vous l'appelez, mon cher président, est un de vos plus précieux fournisseurs. » « Un de mes fournisseurs. Oui, c'est un des tripots les plus mal fréquentés des trois provinces. Et nous allons pénétrer là-dedans. À moins que vous ne supposiez que nous aurions plus de chances de rencontrer l'assassin de Ling chez le prince Kong. « Vous avez raison, » approuva le mandarin, « que le seul nom du vice-roi avait le privilège de rendre brave. Allons, allons. » Et le premier, il franchit le seuil de la maison, et Fop le suivit. À moitié du couloir, à peu près à droite, ils atteignirent une porte grande ouverte. C'était l'entrée d'une vaste salle où se trouvaient à peu près 150 individus, mais l'atmosphère y était tellement épaisse que les deux amis ne purent tout d'abord distinguer ni rien ni personne autour d'eux. Ils s'y firent bientôt, cependant. Ming fut alors tout yeux et tout oreille. Sur de larges bancs de bois adossés à la muraille, des gens accroupis fumaient et paraissaient assez indifférents à ce qui se passait devant eux, mais les autres parties de la salle étaient moins tranquilles. L'assistance formait des groupes distincts, d'où s'élevaient en même temps des cris de joie et des malédictions. Ces groupes se pressaient autour de tables occupées par des joueurs qui paraissaient par leur costume appartenir à la classe bourgeoise. Cependant, quelques-unes de ces tables étaient littéralement couvertes de piastres des dingots, ce qui permit à Fohop de supposer que Ming et lui n'étaient pas les seuls qui fussent là incognito. Les parieurs luttaient entre eux ou contre les banquiers qui tenaient les enjeux et donnaient les cartes, de vraies cartes, comme celles dont nous nous servons en Europe, avec cette différence que les figures des rois, des reines et des valets y étaient remplacées par des oiseaux fantastiques, rouges, verts et bleus, ou par des dragons qui semblaient faire les plus effroyables grimaces aux perdants. Et de la galerie qui faisait le tour de la salle, des clients descendaient leurs mises dans le petit panier qui, la plupart du temps, remontait vide. Après avoir inspecté une à une les diverses masses de cet étrange tripot, sans rencontrer rien qui ressemblât au portrait que Madame Liu avait fait de Chu, Fohop et Ming parvinrent à se glisser à travers les curieux auprès d'une table de jeu. Il n'y avait là que deux lutteurs en présence, mais la partie était évidemment sérieuse. La foule en suivait ardemment toutes les péripéties, en excitant les adversaires de la voix et du geste. L'un de ces joueurs était un homme jeune encore, l'âme déjà bronzée sans doute, car sa physionomie se trahissait aucune émotion. À chaque coup nouveau, la masse d'or et d'argent qu'il avait devant lui grossissait, et il attirait flegmatiquement à lui son gain, en esquissant à peine un sourire, Sourire étrange qui semblait exprimer moins de satisfaction de sa bonne chance que de haine contre celui qui le ruinait. L'autre était un petit homme d'une cinquantaine d'années, dont le visage amaigri portait les traces de tous les excès. Ses yeux creusés et éteints, ses lèvres pâles et flétries, ses dents noires et déchaussées, le tremblement de ses mains, tous les mouvements fébriles de son corps trahissaient son vice favori, l'abus de l'opium. Il jouait nerveusement, maudissait le sort et perdait la tête. Enfin, un dernier coup ayant enlevé sa dernière piastre, il se leva en jurant. La foule s'écarta, pensant qu'il allait se livrer à quelque acte de fureur sur lui-même ou sur autrui. Non, il n'en fut rien. Redevenu calme, presque tout à coup, le décavé se dirigea tranquillement vers la pièce de la maison spécialement réservée aux fumeurs. Le précieux narcotique allait lui faire oublier sa perte et lui donner l'espoir d'une revanche éclatante. « Partons, » dit alors Ming à Fo Hop, après avoir perdu de vue le joueur dépouillé. « Ne t'emmenez pas ici, nous en sommes bien certains. » « Oui, éloignons-nous, » répondit le préfet. « Mais je n'oublierai pas ce tripot. Les tipaos du faubourg de Hanan peuvent être sûrs de leur affaire pour ne pas me l'avoir signalé. » Les deux mandarins regagnèrent la rue qu'éclairaient en cet endroit les lanternes des établissements de prêt qui avoisinent toujours les maisons de jeu. « Shedsang, maintenant, » ordonna Fohop à ses guides. Si malfamé que soit son domaine, nous n'y verrons rien de plus vilain qu'ici. » La petite troupe se remit en route. La nuit était restée sombre et lugubre. Au fur et à mesure que nos amis s'enfonçaient davantage dans le faubourg, les rues, ou plutôt les ruelles, devenaient plus étroites, plus tortueuses, plus enchevêtrées. Cela inquiétait d'autant plus le président que le quartier était tout à fait désert. Il y régnait un calme si complet qu'on eût dit qu'il était inhabité ou ne renfermait que des morts. Ils arrivèrent ainsi jusqu'au temple de Bouddha, dont les hautes murailles bordaient l'un des côtés de la voie, tandis que l'autre ne se composait que de misérables cases. Ming, dont les regards troublés ne cessaient de sonder les ténèbres, crut s'apercevoir alors que, çà et là, de l'enfoncement d'une porte, de l'angle d'une maison, se détachaient des ombres qui fuyaient sans bruit en rampant. Il en fit part aussitôt au préfet, mais celui-ci, brave autant que son compagnon était poltron, et résolu d'ailleurs à pousser l'aventure, aussi bien par curiosité que par devoir, se contenta de hausser les épaules, et prenant son collègue par le bras, il l'entraîna dans une petite ruelle obscure où Sunpo et Amoy venaient de disparaître. Ils y avaient à peu près fait une centaine de pas à tâtons, ils allaient se diriger vers des lumières qu'ils apercevaient au loin, quand une demi-douzaine d'êtres étranges leur apparurent tout à coup, comme s'ils sortaient de terre, et se mirent en travers de la ruelle pour embarrer le passage. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous ? » leur demanda d'un ton menaçant l'un de ces hommes. Ming avait exécuté un mouvement de retraite. Sunpo s'avança vivement, au contraire, échangea quelques mots avec l'inconnu, et celui-ci s'éloigna aussitôt, mais non sans avoir recommandé à ses compagnons de ne pas permettre aux promeneurs d'avancer. « Mais je crois, Bouddha me pardonne, » murmura le vaniteux magistrat, « que le roi des mendiants nous fait faire antichambre. » « Oui, c'est un vrai souverain, plus puissant que bien d'autres, » répondit Fohop. Somme toute, il agit envers nous que comme nous allons si souvent agir envers autrui. Mais comment, vous, le préfet de police de canton, vous comptez avec ces canailles-là? Sang, mais parfois très utile. En échange de quelques immunités dont jouit son association, il me renseigne sur des choses que je suis fort intéressé à connaître. Et comme, lorsqu'il se commet un crime dont je ne puis pas découvrir les auteurs, je le rends un peu responsable du méfait, alors il m'est dévoué. Alors comment ne vous êtes-vous pas donc adressé à lui pour trouver l'assassin de Ling? Mais tout simplement pour deux motifs. D'abord parce que vous étiez convaincu d'avoir condamné les seuls et vrais coupables. Ensuite parce que le crime s'est commis hors de canton et de ses faubourgs, dans une localité où les sujets de sang ne vont que rarement. Ming allait sans doute s'efforcer de prouver à son collègue que ces deux raisons-là lui semblaient également insuffisantes, lorsque Soun Po l'avertit qu'il voyait revenir le mendiant parti en émissaire. Cet homme arrivait en courant, ce qui était de bon augure. En effet, aussitôt qu'il eut rejoint nos amis, il s'inclina poliment devant eux et les pria de le suivre. 5 minutes plus tard, les deux mandarins atteignaient l'extrémité de la rue et pénétraient dans l'étrange lieu où le roi des mendiants tenait sa cour. C'était un immense quadrilatère bordé sur ses quatre côtés par des cases du plus sordide aspect. Un vaste hangar, semblable à une halle de village, en occupait le centre. Il s'y trouvait 200 à 300 misérables, au moins, divisés par groupes. Les uns fumaient sans mot dire, les autres mangeaient, jouaient ou pansaient les plaies dont ils se faisaient un moyen d'existence. Quelques lanternes suspendues aux poutres de la toiture du hangar et quelques torches tout simplement fichées dans le sol éclairaient ce tableau fantastique. Seulement, en traversant cette foule bizarre, composée de tous les monstres que peut engendrer la nature ou la maladie, géants, nains, boiteux, manchots, bossus, borgnes, aveugles, lépreuses et paralytiques, Ming, qui inspectait soigneusement ce monde-là, dans l'espoir de retrouver au milieu de toutes ces laideurs celle de Tchou le boucher, Ming crut s'apercevoir que la plupart de ces plaies étaient factices et que le plus grand nombre de ces difformités étaient simulées. Le fait est que tous ces gens-là étaient fort gais et ne paraissaient pas souffrir beaucoup. Le digne magistrat en fut bientôt convaincu lorsqu'il vit un cul-de-jatte qui se traînait à ses pieds se débarrasser tout à coup de sa sellette. Après l'avoir prise sous son bras, il s'était mis à danser une véritable gigue pour se dégourdir les jambes. La surprise que causa cette transformation subite à l'honorable président ne l'empêcha pas toutefois, bien au contraire, de suivre son compagnon. Quelques instants après, sans avoir rien découvert de ce qu'il cherchait, il arriva au bout du hangar, c'est-à-dire en présence de Sang, qui s'était à peine levé pour saluer ses visiteurs. Le roi des mendiants était un homme d'une 60aine d'années, d'une taille gigantesque et d'une physionomie assez douce, bien qu'il eût le type tartare. Il était affublé d'une grande robe de soie bleue en guenilles et coiffé d'un large chapeau de rotin tressé et orné de coquillages. Un lourd collier de jade passé autour de son cou lui tombait sur la poitrine, et il portait à l'index de la main droite un large anneau d'argent dont le chaton était un onyx gravé qui représentait un homme à genoux. Ces deux joyaux étaient les insignes de son pouvoir et de sa dignité. Il suffisait qu'un laissez-passer fût revêtu du sceau de sang pour que celui qui le possédait pût circuler sans crainte, du nord au sud de la Chine. On affirmait même que c'était un talisman souverain auprès des Taipings et de toutes les sectes du nénuphar blanc, le terrible et puissante association. Ce singulier monarque était entouré d'une demi-douzaine d'individus avec lesquels il semblait en discussion importante. « Je voudrais te parler en particulier, » lui dit néanmoins Fohop. « Dans un instant, seigneur, je serai à vous, » répondit Sa Majesté en haillons. « Je vous demande que 5 minutes pour terminer avec mon trésorier. C'est aujourd'hui que je règle les comptes, je ne dois pas faire attendre mes sujets. » Le préfet et Ming aperçurent alors un personnage, celui que Sang appelait si orgueilleusement son trésorier, qui alignait sur une grande feuille de papier une suite interminable de chiffres, pendant que son maître, sans nul souci de son rang, comptait lui-même et séparait les unes des autres, avec une grande adresse, les pièces de monnaie de toutes sortes que contenait un grand bassin de cuivre placé sur ses genoux. C'était la recette pécuniaire de la semaine qui venait de s'écouler. Quant aux récoltes en nature, c'est-à-dire en vivres, le partage en était fait quotidiennement le soir, aussitôt après le retour des mendiants, par des distributeurs honorés de la confiance de leur souverain. Les vêtements et le riz qu'ils recevaient comme aumône étaient également versés à la masse commune. On nettoyait et on serrait les premiers pour les vendre, car une des règles de la compagnie était de n'être couvert que de guenilles. Le riz était emmagasiné précieusement pour les jours de disette. On voit que ce Sang était un roi rempli de prévoyance et que l'illustre confrérie était régie d'après les lois économiques les plus sages. Ming était probablement en train de faire ses réflexions, tout en examinant avec soin chacun des individus qui passaient devant lui pour aller recevoir leur part des mains du trésorier. Et il remarquait que nul d'entre eux n'était plus ni difforme, ni infirme, ni paralytique, que les bossus s'étaient redressés, que les aveugles y voyaient et que les boiteux portaient leurs béquilles sous le bras, lorsque Fohop l'arracha à sa stupéfaction croissante. Sang venait de quitter enfin l'escabeau qui lui servait de trône pour dire au chef de la police « Bon Seigneur, je suis à vos ordres. » « Mais c'est à toi seul que je voudrais parler, » observa le fonctionnaire. L'autocrate de cette cour chinoise des miracles donna un ordre, et le vide se vit aussitôt autour de lui. Ses sujets avaient disparu comme par enchantement. « Vous pouvez parler maintenant, » reprit-il avec un sourire d'orgueil, « nous sommes seuls. »« Tu sais pourquoi je désire t'entretenir ?»« Oh non, Seigneur. » Tu n'ignores pas cependant l'assassinat du jeune Ling Lan Lang, et comme le coupable n'a pas été découvert, tu devais bien penser que je m'adresserais à toi pour obtenir les renseignements que tu ne peux pas me refuser. Ben, je croyais au contraire que les meurtriers de Ling avaient été arrêtés, jugés. Les accusés qui ont comparu devant la cour criminelle ne sont pas les coupables. Oh, il est donc vrai que le président Ming a fait la bêtise de condamner 2 innocents. À cette qualification sans gêne de sa conduite par un homme qui se croyait en droit d'envoyer en prison, le gros magistrat a failli se trahir, mais Fohop, qui n'était pas certain d'ailleurs que Sang n'eût pas reconnu son collègue, l'arrêta à temps et répondit « Oui, le président de la cour s'est trompé, mais aujourd'hui nous connaissons le véritable assassin. C'est Chu, jadis boucher à Funxi. »« Vraiment, tant mieux pour Madame Ling et son cousin. Tant mieux aussi pour le seigneur Ming, puisqu'il doit recevoir 100 coups de bambou s'il livre pas le meurtrier du prince Kong. » Le roi avait prononcé ces mots avec un tel accent d'ironie que le brave juge en était cramoisi de colère. Il parvint toutefois à se contenir, mais en se promettant de se venger de l'humiliation qu'il subissait si cet insolent personnage comparaissait un jour à sa barre. « Oh, cette chou, tu dois le connaître, » poursuivit Forop. « Non, j'en ai seulement entendu parler. Écoute, joue en quartz sur table. T'as-t-il payé la prime que te donnent les voleurs en échange de ta protection et d'un asile ?»« Non, je vous l'affirme. » Eh bien, Chou était à Canton aujourd'hui, et comme j'ai fait fermer les portes et tendre les chaînes du port, il n'a pas pu s'enfuir. Si mes agents ne l'arrêtent pas cette nuit dans la ville ou dans les faubourgs, c'est qu'il s'est réfugié dans quelque lieu que tu sais, peut-être ici même. Alors, je vous jure qu'il n'y est pas. Sur quoi me jures-tu cela? Sur la tombe de mon père. Fop n'insista pas. C'était là un serment que n'oserait faire le chinois le plus méprisable s'il ne disait pas la vérité. Il était certain que, sur ce point du moins, le roi des mendiants ne le trompait pas. « Voyons, continua-t-il, veux-tu me servir? Il y a longtemps que tu me demandes pour tes gens l'autorisation de mendier à la porte des jardins de Fati. Je te l'accorderai si tu m'aides à trouver mon assassin. » Sang ne put retenir un mouvement de joie. Cette autorisation serait pour ses sujets et lui une source de bénéfices énormes, ces jardins de Fati étant, pendant la belle saison, le lieu favori de promenade de la haute société de Canton. Soit, répondit-il, marché conclu, mais je vous préviens que je sais peu de choses. N'importe. Voici tout ce qui m'est revenu sur celui que vous cherchez. D'abord, Chou n'habite ni la ville ni les faubourgs. On l'y a aperçu seulement plus d'un mois après son crime. Il était venu vendre une partie des bijoux qu'il avait dérobés à la ville Laling. Depuis cette époque, on l'a revu 3 ou 4 fois à des intervalles irréguliers. Et où cela? Dans les bateaux de fleurs. À chacune de ces stations, il a joué de grosses sommes qui proviennent d'une source inconnue, car il doit avoir mangé depuis longtemps le produit de son vol. Mais lorsqu'il vient à Canton, où loge-t-il? Bon, ça, je l'ignore. Il arrive dans une embarcation qu'il attend toujours à l'arrière des bateaux de fleurs. Cependant, deux de mes estropiés l'ont rencontré une fois auprès de la maison aux plumes de poule. Ses matelots y étaient sans doute allés dormir en l'attendant. Puis là, c'est pas davantage. Bon, je sais rien de plus. C'est bien, tu auras la permission promise si tu ne t'es pas trompé. Fais-nous reconduire. Sang frappa sur le gong qui lui servait quelques instants auparavant à compter les recettes de la société. Deux hommes accoururent aussitôt. Il donna un ordre à l'un d'eux et, saluant profondément ses visiteurs, il leur dit qu'ils n'avaient qu'à suivre leur guide. Ming ne se fit pas prier et prit les devants. « Toi, » dit rapidement le roi des mendiants à celui de ses sujets qui était resté près de lui, « tu vas courir à la factorerie danoise. Tu prendras la place de Tsifo dans l'embarcation du consul afin de ne pas te faire ramasser par les Tipao. Et dès que le soleil sera levé, c'est-à-dire dès que la chaîne du port s'est attirée, tu loueras un bateau pour le conduire à Vuiparoa. Et là, tu te rendras chez Totui, le marchand d'éventail, qui est auprès de la pagode, et tu lui demanderas à voir son frère en lui disant que c'est moi qui t'envoie. Quand il aura fait venir, on t'aura fait conduire auprès de lui et tu lui donneras ses lignes. Tu m'as compris, n'est-ce pas ? « Vos ordres seront exécutés, » répondit l'individu en s'inclinant avec respect. Sang traça quelques lignes sur une des feuilles et des tablettes qu'il avait tirées de sa ceinture et remit sa lettre à son envoyé qui partit en courant. « Maintenant, » se dit l'étrange majesté, « Fiop et Ming peuvent chercher l'assassin de Ling. S'ils le découvrent, s'il lui se laisse prendre, ce ne sera pas grâce à moi. J'ai tenu ma parole à tout le monde. J'aurai mon autorisation sans avoir trahi personne. » Ces quelques mots en disent plus que toutes les explications sur la puissance du nénuphar blanc. On voit qu'il englobait dans son organisation non seulement les rebelles qui tenaient la campagne et les mendiants, mais encore les pirates qui, sous le nom de secte du lys d'eau, régnaient dans le bas du fleuve des Perles. « Mais il ne me reste plus, » murmura Sang, « qu'à faire surveiller ce démon de Capitaine Perkins. Oh, cela, c'est plus facile que tout le reste. J'y pourvoirai demain par l'envoi de deux de mes plus habiles à la factorerie anglaise. » Et jetant un dernier regard d'orgueil sur son domaine, il se dirigea, ravi de sa soirée, vers sa case, habitation aussi pauvre que celle du plus intime de ses sujets. Pendant ce temps-là, après avoir franchi sans difficulté, grâce à leur guide, la ruelle où ils avaient été arrêtés quelques instants auparavant, Fo Hop et Ming reprenaient leur course à travers le faubourg. Mais cette fois, ni Sun Po ni Amoy n'eurent besoin de demander le chemin. Le préfet savait parfaitement l'endroit où ils allaient, car cette maison aux plumes de poule que Sang venait de rappeler à son souvenir n'était rien d'autre qu'une espèce de souricière bien connue de la police de Canton, et il se demanda comment il n'avait pas pensé tout d'abord à y faire opérer une razzia. Aussi, dès que la petite troupe fut sortie du dédale entourant le temple de Bouddha, invita-t-il son ami à presser le pas. Enchanté qu'il était d'avoir échappé sain et sauf au sujet de Sang, et ravi de posséder quelques nouveaux renseignements sur Chu, le président de la cour criminelle ne se fit pas prier. Moins d'une demi-heure plus tard, après avoir traversé de nouveau le pont de Honnan, les deux mandarins étaient arrivés au but de leur excursion. Seulement, comme il ne s'agissait plus là d'une expédition incognito, dans le genre de celle qu'ils venaient d'exécuter, mais d'une véritable descente de police, Fo Hop avait récolté en route tous ceux de ses agents qu'il avait rencontrés, et il était escorté d'une vingtaine de tipao, ce qui causait au président la plus vive satisfaction. Ils étaient en face de deux vastes hangars en bois, couverts de balles cimentées avec de la plume et séparés par un mur épais, au faîte duquel régnait une espèce de galerie d'où l'on pouvait surveiller les deux parties de l'établissement. Le préfet plaça 10 de ses hommes à chacune des deux portes, seul passage pour rentrer et sortir, en leur ordonnant de ne permettre de s'éloigner qu'à ceux dont il autoriserait le départ. Et, ses dispositions prises, il frappa à l'une de ses issues en sommant d'ouvrir au nom de la loi. Ce fut fait immédiatement, et Ming, qui s'était hissé sur la galerie afin de mieux voir, sans cependant voir de trop près, fut alors témoin du plus curieux et du plus inattendu des spectacles, lorsque, pour obéir à Fo Hop, on eut relevé jusqu'à la toiture la grande pièce de feutre qui était un véritable plafond mobile. Sur un sol battu et couvert d'une couche épaisse de plumes de volaille achetées par l'entrepreneur du lieu dans tous les marchés et restaurants de Canton, 200 à 300 misérables de tout âge, hommes, femmes et enfants, dormaient du plus profond sommeil au moment où ils avaient été réveillés ainsi au milieu de la nuit. On pense avec quelle malédiction ils avaient accueilli les interrupteurs de leur repos. Les lueurs des lanternes que les soldats de police promenaient dans toutes les parties du hangar ne laissaient voir que des têtes effarées apparaissant au-dessus de ce lit étrange, mais personne ne songeait à résister. Chassés à coups de fouet, les pauvres diables se levaient et sortaient un à un. Inutile de dire que Ming, du haut de sa passerelle, les dévisageait les uns après les autres. Soudain, Fo Hop l'entendit pousser un cri terrible. Pensant tout naturellement qu'il venait de reconnaître celui qu'il cherchait, il leva les yeux, prêt à l'arrêter, mais le gros mandarin avait disparu. Tout entier à son examen, il s'était si bien penché dans le vide qu'il avait perdu l'équilibre. Il était tombé de 15 pieds de hauteur. D'abord épouvanté, car il ignorait si c'était en dedans ou en dehors du hangar que son ami avait glissé, le préfet fut bientôt rassuré. Il ne put alors s'empêcher d'éclater de rire. Du haut de la galerie où il avait accompagné Ming, Sous-Pau lui indiquait au pied de la cloison une masse de plumes d'où émergeaient, comme les mâts d'un bâtiment naufragé, les bottes jaunes du président. Tombé dans le lit moelleux, la tête la première, il s'y était, en raison même de son poids, enfoncé tout entier. Les mouvements frénétiques de ses jambes disaient assez quels efforts surhumains il faisait pour sortir de cette position plus ridicule que dangereuse. Les agents se précipitèrent à son secours et, après l'avoir mis debout, l'emmenèrent dans la rue. Mais il était temps, le sang lui était à ce point monté, ou plutôt descendu à la tête, qu'il étouffait. Néanmoins, comme il avait encore plus de peur que de mal, il se remit assez vite lorsqu'il se sentit en plein air. Seulement, après s'être secoué, frotté, époussé, il se retourna vers Fop pour lui dire d'un air désespéré « Oh, j'en ai assez. Oh, il en adviendra ce qu'il plaira à Bouddha. Que tchou aille au diable, moi je vais me coucher. Oh, le dernier service que je vous demande, c'est de me reconduire car je suis brisé. » Et saisissant le bras de son compagnon, le malheureux Ming se dirigea clopin clopant vers la ville, en maudissant les tripots, le roi des mendiants, la maison aux plumes de poule, le chef de la police et lui-même par-dessus le marché. Chapitre 4. Un repère de bandits. Pendant qu'il visitait les faubourgs de Canton dans l'espoir d'y découvrir l'assassin de Ling, mais pour n'y trouver que les mésaventures et les déboires que nous venons de raconter, l'honorable Ming ne se doutait guère qu'à une 20aine de lieues de là, dans le bas de la rivière des Perles, il était, ainsi que son ami Perkins, l'objet d'un conciliabule entre gens de qui la haine était redoutable et dont la vengeance pouvait être terrible. L'endroit où se passait cette scène était certainement un des lieux les plus désolés qu'il fut possible d'imaginer. C'était Wangmu, une des petites îles de cet archipel des Ladrones, si redoutée des marins, non seulement parce que, situé au milieu de l'entrée du fleuve, il multiplie les dangers de la navigation dans ces parages, mais aussi et surtout parce qu'il était le repère de ces hardis pirates que les jonques de guerre n'osaient attaquer, et que le gouvernement impérial préférait d'ailleurs ne pas trop poursuivre, dans la crainte qu'à un moment donné, ils ne fissent cause commune avec les étrangers. Quelques-unes de ces îles étaient donc la propriété absolue de ces écumeurs des mers. Ils y vivaient en toute sécurité, défendus par les difficultés naturelles des côtes autant que par la terreur qu'ils inspiraient. C'était là qu'ils venaient se reposer de leurs courses, cacher leurs butins et préparer de nouvelles expéditions. Grâce à un espionnage admirablement organisé, ils savaient quels étaient les navires en partance, ce qu'on attendait, et c'était presque à coup sûr qu'ils se mettaient en chasse pour courir sus au bâtiment dont ils connaissaient le chargement, les équipages et les moyens de défense. Cet îlot de Wangmu était alors quelque chose comme le quartier général du Lys d'eau, et depuis quelque temps surtout, il en était parti des excursions dirigées avec une vigueur, une promptitude, une hardiesse dont on n'avait pas eu d'exemple jusqu'à cette époque. Cela tenait à ce que les pirates obéissaient à un homme d'une énergie sauvage qui, durant de simples volontaires, s'était élevé rapidement au grade de chef redouté. Il nous faut remonter à peu près de 3 mois en arrière pour raconter comment ce phénomène s'était produit. C'était le lendemain de l'assassinat de Ling Talang au point du jour, Le lys d'eau était alors commandé par ce même Peyo, qui devait être arrêté à la suite du pillage de deux opium sclippers anglais et dont Ming a acheté le corps après l'avoir condamné à être pendu. Depuis la veille, le temps était mauvais et les pirates étaient en train de haler à terre leurs canots, que la mer déchaînée menaçait de briser contre les rochers, lorsqu'ils distinguèrent, venant du haut du fleuve, une embarcation que le courant et la tourmente entraînaient au large. Un seul homme, d'une taille gigantesque, montait cette embarcation, qui disparaissait parfois au milieu des vagues. Debout à l'arrière, tenant d'une main le gouvernail et de l'autre l'écoute de la voile dans laquelle s'engouffrait le vent, ils se dirigèrent en marin, consommés, pour éviter les écueils et les coups de mer. Mais loin de lutter contre l'ouragan, ils semblaient courir au contraire au-devant de la mort. Au moment où ils venaient de doubler le cap de l'île Wangmu, il aperçut ceux qui se trouvaient sur le rivage, et comme si cette vue eût modifié tout à coup sa résolution, il largua sa voile que le vent porta. Puis, changeant sa direction d'un coup de barre, il se lança au milieu des récifs où son canot roula fracassé. Mais lui, il était sain et sauf. D'un bond de fauve, il avait sauté à terre. Les pirates se précipitèrent vers lui. Il les laissa venir sans qu'un seul muscle de son visage ne tressaillît. « Où suis-je ? » leur demanda-t-il dès qu'ils purent l'entendre. Mais toi, qui es-tu ? Riposta l'un des bandits. Un homme que la tempête emportait et qui voulait mourir. Tu es dans un endroit d'où nul étranger n'est jamais sorti vivant. Tu es dans le domaine du lys d'eau. Moi, je suis Peyo, celui qui commande ici. Au lieu de trembler à cette révélation, ainsi que s'y attendait sans doute son interlocuteur, le naufragé eut un sourire bizarre et relevant sa haute taille, il répondit « Ben alors, tout est bien, c'est le destin qui m'envoie. Veux-tu que je sois des vôtres ? Toi, mais quel est ton nom ? Je m'appelle l'araignée rouge. » « L'araignée rouge ? Oui. Et qui nous prouvera que tu ne viens pas pour nous trahir ? Qui nous prouvera que tu as courage et le mépris de la vie dont nous sommes tous animés ? Un homme m'avait enlevé la femme que j'aimais. Cet homme, je l'ai tué la nuit même de ses noces. Je me suis glissé dans sa chambre, j'ai volé les bijoux qu'il avait donnés à sa fiancée. Voilà ce que j'ai fait. L'orage m'entraînait, il n'y a qu'un instant, vers l'immensité, et je luttais pas contre lui, me laissais emporter vers la mort. Voilà qui je suis. Crois-tu que je tienne à la vie ? L'inconnu avait prononcé ces mots avec une énergie si féroce que les membres du lys d'eau n'avaient pu retenir un mouvement d'admiration. « D'ailleurs, poursuivit-il, je viens pas les mains vides. Tenez, voici le prix de ma rançon. » Et puisant dans un large sac suspendu à sa ceinture, il jeta aux pieds du chef des pirates ses poignées d'or et de bijoux. Ceux qui assistaient à cette scène sauvage éclatèrent en hurrahs frénétiques. « C'est bien, répondit Peyo en tendant la main à Chou, et en faisant signe à ses hommes de se partager le butin inespéré que leur envoyait la tempête. « C'est bien, bon, tu es aujourd'hui, tu es des nôtres. » 8 jours plus tard, l'ancien boucher de Funsi faisait partie d'une première expédition. Moins d'un mois après son arrivée à Wangmu, il s'était déjà imposé à ses compagnons par son habileté. Ainsi que la plupart des habitants pauvres de la côte, Chu avait débuté dans la vie par être pêcheur, et nul ne connaissait mieux que lui les 1000 détours de Sikyang, ses dangers et ses abris. Sans rien demander à l'association, il s'était fait construire sur le modèle des embarcations anglaises qu'il avait vues à Hong Kong, une longue yole à 20 rameurs, dont la marche défiait tous les bateaux mandarins, et il avait groupé autour de lui une trentaine de matelots aveuglément dévoués. C'est dans cette embarcation que Rose avait été transportée après son enlèvement. Mais Peyo n'avait pas vu sans colère cette puissance du nouveau venu s'élever auprès de la sienne, et il projetait de se débarrasser de son rival lorsqu'il avait été arrêté après le pillage des deux goélettes anglaises dont les gibets de Hong Kong allaient venger la destruction. Quelques-uns des sinistres habitants de Wangmu disaient même tout bas que leur chef n'avait succombé dans la lutte que grâce à l'abandon de Chu, qui s'était brusquement éloigné du combat au lieu de porter secours. Que le fait fût vrai ou faux, l'ex-boucher, après l'arrestation de Pei Ho, n'avait rien changé à l'existence qu'il menait depuis son entrée dans la terrible société. N'emmenant avec lui qu'un de ses membres, nommé Wumpy, son homme damné, et les matelots qui montaient son embarcation, il disparaissait parfois pendant des semaines entières. On le voyait tout à coup, sans qu'il eût prévenu de son départ, s'éloigner à la nuit tombante vers le haut du fleuve. Nul ne savait où il passait les jours que durait son absence. Les bandits ne songeaient pas d'ailleurs à l'interroger, car chacun de ses retours était suivi d'une expédition couronnée de succès. Jamais l'Isdo n'avait été plus prospère. Les navires en partant ou venant du large étaient signalés avec une telle précision, et le pillage des localités riveraines s'exécutait si rapidement qu'il semblait que l'araignée rouge étendit sa trame sur toute la partie de la province que baignait le Sikiang. Et cependant, Chu ne s'occupait pas que des intérêts de ceux dont il était devenu si rapidement le maître, car il s'était fait en lui une transformation complète, non seulement à dater du jour où il avait juré de se venger de la trahison dont il se croyait l'objet, mais à partir surtout de cette nuit sanglante de la villa Ling, où il avait si bien tenu son serment. Du boutiquier d'allure commune, mais insouciant et gai autrefois, il ne restait plus rien. Après avoir quitté Funxi, il s'était caché dans un des faubourgs de Canton, et là, tout entier à sa haine et à son espoir de vengeance, il s'était laissé aller aux instincts brutaux qui étaient le fond de sa nature. Il était devenu un coureur de tripots et de maisons de thé, trouvant une sorte de jouissance sauvage à hasarder au jeu et à gaspiller en plaisir cet argent qu'il avait amassé par le travail et qu'il n'avait pu dépenser en achat de cadeaux pour Saul Brodet. La chance lui avait d'abord été funeste, et il avait dû vendre une partie des bijoux volés dans la chambre nuptiale, plutôt pour détourner les soupçons de la justice que par rapacité. Mais la fortune lui avait ensuite souri constamment. On eût dit que le destin voulait que ses passions ne rencontrassent pas de barrières, ne connussent point d'entraves. C'est ainsi qu'il atteignit, en nourrissant ses projets sanguinaires, le jour du mariage de Liu Xiu, et on n'a pas oublié comment il était parvenu à mettre à exécution son odieux projet. Mais après avoir consommé son forfait, le premier soin de l'assassin avait été de fuir. Et c'est cette nuit alors que, sans se préoccuper du vent qui soufflait avec violence, il s'était emparé de la première embarcation amarrée sur la rive, au bas même du jardin où gisait sa victime. Fou de rage et ne sachant où se diriger, il s'était abandonné au courant du fleuve, et bientôt la tempête contre laquelle il ne pouvait lutter l'avait entraîné sur les rochers de Wangmu. Nous savons quel parti il avait tiré de sa situation. Toutefois, cette existence de périls et d'aventures ne lui fit rien oublier. Ce n'était pas assez pour le monstre de s'être vengé. Il voulut savoir ce qui s'était passé à la villa le lendemain de sa fuite. Et lorsqu'il apprit que son horrible crime avait eu un succès inespéré, c'est-à-dire que Saul Brodet et Ité étaient accusés de l'assassinat de Ling, il se promit de suivre les débats de leur procès et, s'ils étaient condamnés, d'assister à leur supplice. De là, ses fréquentes absences et ses voyages à Canton, voyages dont il profitait également pour prendre tous les renseignements utiles aux Lys d'eau et qu'il avait mis forcément en rapport avec le roi des mendiants. Seulement, comme il ne pouvait descendre dans aucune hôtellerie, il passait ses jours et ses nuits dans les bateaux de fleurs, où il ne craignait pas la police, qui d'ailleurs ne le soupçonnait pas. Il put connaître ainsi la condamnation des deux innocents le jour même où elle fut prononcée, et sa joie n'eut plus de bornes. Mais ceux de ses émissaires qui surveillaient Madame Liu, l'ayant renseigné sur son entrevue avec Perkins, il comprit immédiatement le but du contrebandier et forma aussitôt le double plan de l'empêcher de sauver Saul Brodet et de lui faire payer cher son intervention. Pour obtenir le premier de ses résultats, il fit enlever Rose, dont les explications pouvaient arracher sa jeune maîtresse au gibet, puis il projeta une attaque contre la goélette de Perkins. Il était certain d'avance que les pirates applaudiraient avec enthousiasme à cette expédition, qui se réservait de leur présenter du reste non seulement comme une excellente opération, mais encore comme un acte de représailles à la condamnation de Peiho et de ses compagnons. Au milieu de toutes ces combinaisons infernales, Chun n'avait commis qu'une faute. Une seule fois, il était sorti de sa prudence habituelle. C'est la veille du jour où nous sommes arrivés lorsque, rencontrant Saul Brodet et sa mère sous la porte de Tainan, sa haine et tout en même temps sa passion l'avait emporté jusqu'à se faire reconnaître de la malheureuse pour la torturer une dernière fois. Mais il avait compris aussitôt qu'il allait avoir à sa chasse toute la police de Canton, et après avoir envoyé un de ses hommes à Sang pour lui donner ses instructions, il s'était hâté de courir vers le port et de gagner Whampoa. Il avait là sagement agi, et cela explique pourquoi le pauvre président de la cour criminelle n'avait pu découvrir son insaisissable assassin dans le faubourg de Honan. C'était donc de l'excursion projetée contre l'éclair et de l'exécution de leur ancien chef que les pirates s'entretenaient à Wang Mu, dans un vieux fort portugais démantelé dont le Lys d'eau avait fait son quartier général. Wumpy excitait ses compagnons contre les Anglais quand l'homme posté en vedette sur la falaise accourut annoncer que le chef allait débarquer. Averti par l'émissaire du roi des mendiants, Chu n'avait pas cru prudent de rester un jour de plus à Whampoa. Il s'était hâté de rejoindre son embarcation, qu'il attendait toujours cachée dans les hautes herbes du rivage de l'un des bras du fleuve. Grâce à ses 20 rameurs et à la marée descendante, il avait franchi en moins de 5 heures les 18 à 20 lieues qui le séparaient de son sauvage et impénétrable repère. « Bonne nouvelle !» dit-il à ses hommes en paraissant subitement au milieu d'eux. Les membres du Lys d'eau s'étaient levés tous à l'arrivée du maître. « Oui, bonne nouvelle » répéta-t-il. « En ce moment même, les Anglais mettent à mort 10 de nos frères. Mais nous pourrons bientôt les venger, car avant la fin de la lune peut-être, les hostilités seront reprises entre l'Empire du Milieu et les étrangers. » L'auditoire tout entier fit entendre un cri de joie. En attendant, poursuivit Chu, nous frapperons un de ces chiens qui est notre plus grand ennemi, le capitaine Perkins. Sa goélette descendra demain de Lintinalantao. Que nos embarcations soient en état. Je serai prévenu du moment favorable et une de ces prochaines nuits, nous nous mettrons en course. Et tenez, voici un faible acompte sur votre part de prise. En prononçant ces mots avec un éclat de rire sinistre, l'assassin de Ling avait jeté sur une table un sac de piastres. Puis, faisant signe à Wumpy de le suivre, il sortit en laissant les misérables se partager le gain qu'il leur avait lancé comme un os à ronger. Et vos affaires, capitaine? lui demanda son fidèle lorsqu'ils furent assez loin pour ne pouvoir être entendus de personne. Elles vont encore mieux que celles du Lys d'eau, répondit l'araignée rouge. Dans 15 jours, Saul Brodet sera pendu et Ité subira le supplice de la mort lente. Vous me donnerez Rose alors. Je l'avais promis, oui, tu l'auras. Mais je t'ai dit aussi que je voulais qu'elle vînt à Canton avec moi une fois encore. Mais quand cela? Ben, le jour où sa maîtresse montera au gibet. Je veux qu'elle nous voie tous deux au moment de mourir, afin que son dernier soupir s'exhale dans une dernière torture. Soit, maître, j'attendrai. Tu l'aimes donc bien, cette fille? Yumpi garda le silence, mais ses yeux lancèrent un éclair. Et Rose, t'aimes-t-elle? fit Chou, avec un sourire tout à la fois ironique et haineux. Mais non, répondit sourdement le bandit. Cependant, j'ai supplié ma mère de l'entourer de soins et de lui parler de mon amour. Dans la bouche de ce monstre à figure humaine, ces mots juraient comme un blasphème sur les lèvres d'un enfant. Il venait d'atteindre la case de Wumpy. Celle du nouveau chef du Lys d'eau était plus loin, sur le haut de la montagne, perché comme un nid de vautour. Soudain, une femme aux traits bouleversés, aux cheveux épars, leur barra le passage. Grâce, Tchou, grâce! s'écria-t-elle en se jetant aux genoux de l'ancien boucher. C'était Rose, aussi changée peut-être que l'était celle que son imprudence avait perdue. Et que veux-tu? lui demanda durement le meurtrier. Ne me livrez pas à cet homme, supplia-t-elle. Renvoyez-moi à Founcy. Je vous jure que je ne vous trahirai pas, que je ne prononcerai jamais votre nom. Qu'est-ce que cela me fait que tu dises ou ne dises pas un jour que c'est moi qui ai tué Ling? Ce que je veux, c'est que tu te taises maintenant. C'est que le bourreau ne puisse t'arracher mon secret par la torture. Ce que je veux, mais c'est pas seulement que ta maîtresse meure. C'est aussi qu'elle meure déshonorée. Et repoussant brutalement du pied la pauvre fille, il gravit rapidement la falaise d'où la vue s'étendait sur un horizon sans bornes. À ses pieds, la mer déferlait sur les rochers des Ladrones. Devant lui, dans le haut du fleuve, l'île du Tigre confondait ses sommets avec les nuages. À sa gauche, Macao dormait au fond de son golfe désert. À sa droite, il lui semblait entendre les cris de joie de la colonie anglaise qui fêtait la condamnation des pirates. Pendant quelque temps, il resta immobile et pensif, semblable à un mauvais ange planant sur l'immensité. Puis tout à coup, comme en proie à un délire furieux, il étendit le bras en s'écriant: En ce moment, Peiho à Hong Kong, dans quelques jours, Saul Brodé à Canton. Ah! Demain je serai tout puissant. Bientôt enfin ma vengeance sera complète.